Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
L'important, c'est pas la quantité, c'est pas la quantité de calories, on s'en fiche. L'important, c'est la qualité des calories. Donc, quand on regarde ça, on voit bien que c'est pas la quantité qui va compter pour une bonne santé ou pour un poids, mais plutôt la qualité, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dedans.
Hello, je suis Isadora.
Et moi, Marisa.
Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel.
Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations.
Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine.
N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle.
Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez.
Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, c'est Isadora qui parle. Comme d'habitude, c'est toujours moi qui fais les intros. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je suis accompagnée de Anaïs Tacourte. C'est bien comme ça qu'on le dit.
C'est ça.
Voilà. Donc bonjour Anaïs.
Bonjour Isadora. Bonjour Marisa. Enchantée à tous.
Coucou. Alors Anaïs...
Elle m'introduit pas Isadora, mais je suis là aussi. Hein.
Oui, Marisa est là. Marisa est toujours là. Heureusement, malheureusement, nous ne savons pas. Marisa est toujours là. Donc Anaïs, je lui ai demandé de venir sur notre podcast. Alors Anaïs, c'est une diététicienne, nutritionniste, micronutritionniste. Est-ce qu'on le dit comme ça ou pas ?
Oui. Alors je suis diététicienne nutritionniste et après je suis spécialisée en micronutrition. Donc c'est une formation complémentaire.
D'accord. Est-ce que juste pour qu'on en sache plus, surtout aussi pour nos auditeurs, c'est quoi la micronutrition ?
La micronutrition, alors c'est quelque chose de pas facile à expliquer, mais en gros, on a les macronutriments et les micronutriments. Donc les macros, ça va être tout ce qui est lipides, glucides, protéines. Et les micros, c'est les petits, donc tout ce qui est vitamines, minéraux, acides gras, acides aminés essentiels, aussi tout ce qui est antioxydants, entre autres. Voilà, donc moi, en fait, en micronutrition, on va s'intéresser aux apports et aux déficits, aux carences de tout ce qui est petit, donc tous ces micronutriments qui peuvent avoir en fait des implications considérables dans notre corps et qui peuvent du coup favoriser des troubles ou même des maladies sur du long terme.
D'accord. Alors, si j'ai fait le choix de te demander de venir, c'est parce que c'est notre sœur, donc Karine, que vous connaissez si vous nous écoutez depuis longtemps, qui travaille avec nous sur la plateforme Intention, qui avait proposé à Anaïs de venir sur notre plateforme en tant qu'intervenante pour parler du microbiote. Donc là, on est au mois de septembre et au mois de septembre, sur notre plateforme, on parle microbiote. Et c'est toi, Anaïs, qui avait parlé avec Karine de ce sujet. C'était tellement passionnant que je me suis dit, il faut que tu viennes aussi sur notre podcast pour qu'on puisse découvrir une nouvelle façon aussi de voir l'alimentation. Parce que je sais pas si toi, tu vois un peu les réseaux sociaux et ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, en règle générale, l'alimentation est très, on va dire, conscientisée, intellectualisée. On va beaucoup parler de peser ses aliments, de combien de calories il faut manger, de si tu manges tant, eh ben, il faut courir ou aller faire une super séance de sport pour perdre ce que tu as eu l'audace de manger trop gras ce week-end, par exemple. Donc, le but, c'était vraiment de voir avec toi comment on peut se détacher un petit peu de cette relation à l'alimentation qui est un petit peu, je trouve, dangereuse. Et du coup, on va parler aujourd'hui, je me suis dit l'autre fois, il faut qu'on parle des calories. Il y a trop de personnes qui nous demandent tous les jours sur les réseaux sociaux combien de calories compte ton assiette que tu as mangée aujourd'hui. Combien de calories pour le gâteau que j'ai posté hier. Est-ce que sur la plateforme, vous écrivez bien le nombre de calories pour chaque recette postée? Non, la réponse est non. Et aujourd'hui, je voulais voir avec toi, Anaïs, en quoi compter ces calories, en fait, n'est pas utile à notre survie pour manger sainement, pour manger tout simplement, voire même pour perdre du poids. Déjà, avant toute chose, c'est quoi des calories?
Alors, une calorie, en fait, c'est une mesure. Je vais vous parler un peu chinois, mais ça a été défini il y a quelques années. C'est l'énergie qu'il faut pour augmenter d'un degré la température de l'eau, il me semble, qui est à la base à 16 degrés. Bon, c'est compliqué. En gros, c'est de l'énergie. Et d'ailleurs, la calorie n'est plus l'unité de mesure universelle. Normalement, c'est le kilojoule actuellement. Mais tout le monde parle encore de calories. Même les médecins, mais c'est pas ce qu'on apprend, nous, à l'école, et ça fait déjà quelques années.
D'accord.
D'accord. Bah, disons que quand on t'écoute là, ça donne pas envie de compter ses calories, parce que déjà, de base, je comprends pas.
Ouais, non, c'est, en gros, c'est de l'énergie. Après, le pourquoi du comment, c'est un peu compliqué.
Mmh. Okay. Ouais. C'est carrément compliqué même. D'ailleurs, est-ce que toi, tu saurais pourquoi c'est cette mesure-là? Enfin, là, c'est vraiment une question vraiment totalement ouverte, mais pourquoi c'est des calories que les médecins ou les diététiciens aussi ont décidé de mesurer auprès de leurs patients? Pourquoi c'est des calories que l'on compte?
Alors là, je ne sais pas. Ça remonte, je pense, il y a un petit bout de temps, hein, peut-être une centaine d'années, où on a commencé à mettre des calories sur les macros, et du coup sur les aliments. La base, je ne saurais pas te dire, mais c'est une bonne question. Faudrait peut-être rechercher. Je ne sais pas si on pourrait trouver.
Parce que c'est vrai que moi, je me suis jamais posé cette question, mais quand tu me donnes la définition, je me dis, mais quelle horreur, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi on s'est donné comme mission de compter ses calories au quotidien, quoi. Enfin, c'est horrible.
Je sais pas du tout. Après, est-ce que au départ ça a été ça, ou est-ce que ça a été de savoir dans quel type d'aliments, qu'est-ce que je vais retrouver en termes de protéines, en termes de glucides, en termes de lipides? Je pense que c'est plus par rapport à ça qu'on a commencé à compter. Alors, compter les calories, peut-être pas, mais compter surtout la répartition en lipides, en protéines, en glucides dans les aliments. Et après, comme on sait que tant de protéines, c'est tant de calories, etc. Voilà.
Mais d'accord. Oui, je vois.
Après, je sais pas. Je pense que ça a été surtout exploité après par l'industrie agroalimentaire et puis par le packaging, le marketing. Dans les années 80 aux États-Unis et puis tout ce qui est aux États-Unis, ça revient en Europe quelques années après.
C'est vrai, toujours. Bah, Isadora, toi, t'as des questions, parce que t'as demandé, du coup, à notre communauté sur Instagram, poser des questions à Anaïs, que l'on va interviewer. Et t'as eu pas mal de questions, donc si tu veux, on peut en commencer à en répondre, comme ça va découler un peu de la conversation.
Alors, j'en ai eu beaucoup. Et j'étais étonnée que, pour la plupart, soient des questions vraiment très précises sur comment on calcule ses calories. Alors que c'est vrai que nous, sur nos réseaux sociaux et depuis des années, on est plutôt à dire évitez de compter vos calories, puisque c'est pas ça finalement qui est nécessaire tous les jours pour manger, quoi. Donc je suis étonnée de voir tous ces messages qui me demandent par exemple comment calculer le nombre de calories nécessaires en fonction de son activité. Donc moi, finalement, j'ai pas seulement envie de répondre à cette question, parce que je trouve que c'est horrible de leur dire « Bah attendez, on va vous dire comment calculer ces calories », puisque le but, c'est que je ne veux pas qu'on parle de calories. Mais plutôt, Anaïs, toi, quand tu as une patiente qui te... Je sais même pas si on dit patient, mais vous, c'est plutôt client, je crois, quand on est diététicien. C'est patient ? Oh, patient, je sais jamais. Comment toi, quand on te demande combien de calories je dois manger, comment toi, tu te positionnes ?
Eh ben moi, ma réponse plutôt à cette question, ce sera on s'en fiche. Aucun intérêt. D'ailleurs, depuis que je suis en libéral, je n'ai jamais, je dis bien jamais, compté une ration. Je m'en fiche. L'important, c'est ce qui va découler de ta question, hein, pourquoi ça sert à rien. L'important, c'est pas la quantité, c'est pas la quantité de calories, on s'en fiche. L'important, c'est la qualité des calories. Et c'est une grosse différence. Comment vous dire? Souvent, j'explique à mes patients que je peux leur donner exactement deux repas différents, deux plateaux repas différents, avec exactement le même nombre de calories. Avec un repas, ils vont peut-être avoir faim, ils vont grossir. Avec l'autre type de repas, ils seront bien rassasiés et ils vont plutôt être dans une perte de poids sur le long terme. Donc, quand on regarde ça, on voit bien que c'est pas la quantité qui va compter pour une bonne santé ou pour un poids, mais plutôt la qualité, c'est-à-dire ce qu'on retrouve dedans. Et là, d'où l'intérêt aussi de la micronutrition où, en fait, la qualité de vos aliments, de vos calories va permettre d'obtenir, en fait, dans votre assiette, tous ces petites molécules, que ce soit des minéraux, des vitamines, des acides gras essentiels et tutti quanti. Et c'est ça qui est important.
Donc, on est d'accord que toutes les calories, donc, ne se valent pas.
On est bien d'accord, oui. Toutes les calories ne se valent pas parce qu'il y a ce qu'on appelle les calories vides, c'est-à-dire des aliments souvent industriels qui contiennent, en fait, qui ont une densité calorique exceptionnelle. Par exemple, j'en sais rien, vous allez à McDo, voilà. Calories vides et puis densité nutritionnelle zéro, donc. C'est-à-dire qu'on retrouve en nutrition, c'est-à-dire vitamines, minéraux, fibres, etc., il n'y a rien. Par contre, densité calorique énorme, c'est-à-dire qu'un repas McDo, vous avez quasiment mangé vos repas sur toute la journée hein, en termes de calories. Mais on ne va rien retrouver dedans. Aucun intérêt.
Mmh. Voilà. En même temps, c'est l'exemple qu'on donne toujours, mais c'est vrai que les produits, on va dire, ultra industrialisés comme ça, en soi, oui, vous les mangez... on sait très bien que ça n'a aucun apport positif à notre santé sur le long terme, à notre poids sur le long terme, ça n'a aucun intérêt positif. Mais pourtant, on tient quand même à savoir les calories. Et même sur des plats, on va dire fait maison, sains, on va quand même me demander combien de calories pour le cookie, par exemple, au beurre de cacahuète. Et j'aurais beau leur dire, bah finalement, peu importe, la calorie, puisque c'est du beurre de cacahuète, donc c'est plutôt excellent pour la santé. Il y a du bon chocolat noir, il y a une bonne farine, je sais pas moi, d'épeautre, peu importe. C'est quand même, oui, mais combien de calories? Parce qu'on va pouvoir le comparer. Souvent, je pense que c'est aussi un comparatif avec ce qu'on trouve dans le commerce, je pense. Ça permet de juger, est-ce que moi, ce que je vais manger est plus sain? D'ailleurs, ça me fait rebondir. Est-ce que manger beaucoup de calories, ça c'est une question qui était revenue, ou manger peu de calories, ça veut dire qu'on mange plus sainement. Je m'explique, si je mange par exemple, je dis au pif parce que moi pour le coup j'y connais rien en calories, donc je sais même pas combien une femme doit manger entre guillemets de calories par jour, donc je dis vraiment au pif, si je mange un cookie qui fait, au pif, hein, 50 calories, je sais pas si ça existe, 50 calories, est-ce que ça veut dire que c'est plus sain que mon cookie à côté qui me fait, je sais pas, 150 calories?
Ben non. Je vais te dire, encore une fois, ça dépend ce que tu as mis dedans, ça dépend de ta recette. La calorie, on s'en fiche. Ce qui va être important, c'est plutôt ta liste des ingrédients. Et on pourrait même regarder un petit peu le tableau de valeur nutritionnelle éventuellement, mais je trouve que c'est très compliqué à déchiffrer quand on est un peu novice, quand on est la personne lambda, là. Il faut déjà avoir des notions, il faut déjà avoir vu des praticiens, diététiciennes ou autres pour pouvoir l'analyser, ce tableau. La liste des ingrédients, c'est déjà beaucoup plus facile. Parce que, pour en revenir à ton cookie, voilà, si je prends mon cookie qui est issu du rayon de je sais pas quel supermarché, donc ultra transformé, bien industriel, qui a tout le temps le même goût déjà, qui est exactement pareil, voilà. C'est, tu l'achètes en novembre, tu l'achètes en janvier ou au mois de juillet, ce sera tout le temps le même. Alors que le tien, tu vas pouvoir le faire varier. Déjà, il aura jamais le même goût. C'est rare. Et puis après, tu vas pouvoir faire varier sa composition, sa liste des ingrédients. Donc, telle farine, tel sucre, tel type de matière grasse, etc. Et comme tu l'as dit, une farine de grand épeautre ou de petite épeautre, c'est pas la même que la farine de blé qui est raffinée, qu'on va retrouver dans un cookie industriel. C'est pas la même chose si tu mets une huile de coco ou du beurre de cacahuète qui va être des gras plutôt intéressants vis-à-vis de la santé, même si c'est des acides gras saturés. Alors qu'une huile de palme, une huile hydrogénée peut-être sûrement par l'industriel, le sucre également qui va être complètement raffiné, un sucre blanc sans rien à l'intérieur, donc calories vides par l'industriel, alors que toi tu auras peut-être mis un sucre de fleur de coco, un sucre complet ou un sucre issu d'un fruit que tu auras pu écraser ou une compote. Bref, puis tout après, peut-être que tu peux rajouter ton chocolat noir qui sera moins sucré que celui de l'industriel parce qu'évidemment, le sucre, ça coûte pas cher. Et voilà, donc le tien, eh ben, il sera peut-être plus riche, c'est-à-dire enfin plus calorique en tout cas, mais il sera aussi beaucoup plus intéressant du point de vue nutritionnel, c'est-à-dire qu'il va t'apporter des fibres, il va t'apporter des bonnes matières grasses, il va t'apporter des antioxydants, il va t'apporter peut-être quelques protéines selon ce qu'on met dedans, alors que l'autre, eh ben, il va t'apporter des calories et puis c'est tout. Donc ça n'a rien à voir.
Le choix est vite fait, quoi.
Le choix est vite fait, oui. C'est ouais, pas. Ouais. En fait, on nous a inculqué, mais je pense que c'est beaucoup dû aux États-Unis, hein, dans les années 80, où on a expliqué aux gens que finalement, le sucre, c'est bon pour la santé, mais que c'est le gras qu'il fallait bannir et bannir et bannir. Et moi, en consultation, je me bats tous les jours pour dire aux gens, voilà, pour qu'ils comprennent bien que le gras, c'est pas ce qui les fait grossir. C'est le sucre qui les fait grossir. Mais ça, c'est difficile à inculquer. Et on se bat en fait au quotidien depuis une dizaine d'années et c'est encore en fait les messages de santé qui sont, je trouve, pas suffisants en fait dans ce sens. Et puis surtout tout ce qui est message publicitaire de l'agroalimentaire, etc., hein, qui fait toujours la chasse au gras. Et donc qui dit chasse au gras, qui dit en fait moins de calories, puisque c'est le gras qui va nous apporter le plus de calories. Donc les deux, je pense, sont un peu liés. Hein. Je pense à les années 80 là, quand il a fallu qui en fait c'est dû à un excédent de production du maïs aux États-Unis. Il fallait qu'ils le vendent. Et donc ils ont trouvé plein de solutions pour faire du sirop de fructose, de trucs, de machin. Et d'en coller partout dans leurs produits, donc à toute l'industrie agroalimentaire. Et c'est cette industrie agroalimentaire qui a fait la chasse au gras pour pouvoir vendre leur sucre en excédent.
D'accord. Ok. Toujours. En fait, c'est ça qui est toujours horrifiant, moi, je trouve, dans ce monde, c'est que tout ce qui est attrait à la santé, etc., c'est toujours par rapport à un problème de un souci de marketing, d'argent économique. Et on oublie toujours l'être humain. Et c'est pour ça qu'en fait, si l'être humain ne se renseigne pas, comme en écoutant là les podcasts, etc., en étant sur la plateforme, il y a plein de praticiens, il y a vous au quotidien d'aller consulter, de faire le pas d'aller consulter, etc. En fait, t'écoutes les messages les plus visibles. Et tu te dis, mais oui, mais c'est pas Marisa ou Anaïs Tacourt qui a peut-être raison, c'est finalement les gens qui... Mais les gens payent, en fait, les lobbies existent, etc., etc. Et en fait, c'est eux qui ont la part belle de l'audience. Et c'est ça qui est fort dommage, parce que finalement, si on en revient toujours au même, mais à la simplicité, finalement, on se rend compte que, en fait, on peut être en bonne santé et on devrait être en bonne santé juste en faisant du maison. Et c'est vrai que ça me rappelle quand on avait Snackies à l'époque. Isadora, je sais pas si elle t'avait expliqué, mais on avait une entreprise où on vendait des box mensuelles de snacks sains avant. Et à chaque fois, on venait toujours nous voir en disant, mais vos snacks sont archi caloriques. Moi, quand je vais acheter ceci, cela, nanana. Et à chaque fois, on essayait de leur expliquer, oui, mais regarde la composition. La composition, en effet, c'est de la datte. Oui, c'est de la datte, c'est sucré comme si, mais ça reste une datte. C'est quand même meilleur pour ta santé que du sucre blanc raffiné de ton cookie que t'achètes en supermarché, quoi. Et c'est toujours devoir expliquer inlassablement. Donc, je comprends totalement dans ton métier que si tu vois des patients tous les jours, que c'est le même blabla à dire à chaque fois, en fait, finalement. C'est incroyable.
Ouais, ouais, c'est tout à fait ça. Et ce qui, enfin, en fait, comment dire, la santé ou peut-être plutôt la maladie, j'ai envie de dire, est menée par l'argent. Les messages de santé en France, alors je parle pas pour les autres pays, mais en gros, c'est quand même pas mal les lobbies qui les font, hein, ou qui les font pas d'ailleurs.
Oui, c'est ça.
Voilà. Oui. Donc en fonction de nous, déjà, ce qu'on a. À vendre ce qu'on produit en France, on va avoir des messages de santé qui vont aussi dans ce sens-là, pour voilà, pour que ça nous rapporte de l'argent, pas forcément que ça nous rapporte en santé, j'ai envie de dire.
Donc finalement, encore une fois, comme on dit toujours, c'est à chacun de aussi de se responsabiliser et de se dire je suis acteur maintenant de ma santé et je fais le choix d'aller voir une analyste à court, je fais le choix de s'inscrire sur une plateforme, je fais le choix de lire des magazines de micronutrition, enfin je pense que c'est à chacun maintenant de se ou d'écouter des podcasts, enfin il y a même du contenu gratuit, du contenu payant, enfin il y a suffisamment je pense de personnes, même de diététiciennes micronutritionnistes que je trouve maintenant sur YouTube aussi qui font qui nous disent réveillez-vous, c'est à vous maintenant de prendre votre santé en main. Mais du coup quand une patiente vient chez toi ou un patient peu importe et te dit voilà moi combien de calories je dois manger, comment toi tu amorces le côté alors déjà on va s'en détacher. Comment leur faire comprendre que on va s'en détacher parce que eux, ils ont quand même ce lien tellement fort avec les calories que nous, on le voit sur nos membres de la plateforme. Il y en a certaines qui ont mis plusieurs mois avant de nous dire c'est bon, je me suis détachée du nombre de calories parce qu'elles regardaient du coup toutes les valeurs énergétiques sous les, enfin, derrière les emballages. Et aussi d'arrêter, mais ça on reviendra après, d'arrêter de tout peser. De tout peser parce que finalement, peser, ça revient aux calories puisque c'est en pesant qu'on sait plus ou moins combien de calories on va manger. Donc comment tu les amènes à cheminer vers on lâche prise.
Effectivement, il y a peut-être plusieurs problématiques. Je vais pas te citer les problématiques, je vais peut-être plutôt te citer les solutions parce que chaque personne est différente. Déjà, je pense que ce genre de personnes, ils ont une liste des aliments autorisés. On va dire bonne pour la santé généralement. Et à côté de ça, ils ont la liste des aliments interdits. Et ça, c'est la cata. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je vais piocher dans l'interdit, eh ben, je me culpabilise, je suis dans l'échec, je me dévalorise. Donc en gros, je suis négative, négative, négative. Et ça, c'est tout l'inverse. Moi, je leur dis toujours, il faut voir le positif des choses. Peut-être j'ai mangé un truc qu'il faut pas, voilà, dont il faut pas que j'abuse. Après, ça m'a fait plaisir. Peut-être que j'ai mangé ça avec des amis, avec ma famille. Bref, c'était un instant social. Donc voilà, on retire le plaisir de la chose et pas forcément la négativité. Donc moi je donne jamais de liste des aliments autorisés, interdits, parce que déjà j'aime pas ça, je trouve ça idiot, sauf sur certaines pathologies bien spécifiques, hein, mais bon, c'est pas ce dont il est question aujourd'hui. Je crois qu'il faut surtout se dire des fréquences. L'important c'est la fréquence, c'est la quantité, c'est la fréquence, mais il y a rien qui est interdit. Moi dans ce que je fais, tout le monde peut manger ce qu'il veut. Par contre, effectivement, je sais pas, par exemple, ton beurre de cacahuète, je vais peut-être pas en manger tous les jours à tous les repas. Voilà. Du chocolat, je vais pas manger une tablette à tous les repas. Mais par contre, je peux manger un carré de chocolat noir tous les jours, ce sera pas problématique. Si une fois dans la semaine, je mange des frites, c'est pas problématique. Voilà. Donc, il y a toujours une histoire de fréquence, mais il faut pas se mettre d'interdit. L'interdit, c'est le péché et forcément, on va se sentir mal et dans l'échec. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui est pas évident, ça, c'est leur rabâcher. Hein, toujours que la calorie, de toute façon, elle ne sert à rien. L'important, c'est pas ça, c'est plutôt la qualité des aliments. Donc moi, je leur donne plutôt des petites listes d'aliments qui est intéressant à intégrer dans leur alimentation, c'est-à-dire de changer tel aliment qui est pas forcément génial par un autre un peu équivalent mais qui va apporter beaucoup de bénéfices. Je prends un exemple tout simple, du riz. Au lieu de manger du riz blanc, il vaudrait peut-être mieux manger du riz noir ou du riz complet ou du riz sauvage. Voilà. Et au final, on n'aura peut-être pas changé grand-chose parce qu'on mangera toujours du riz, on fera exactement peut-être la même recette, mais on aura apporté peut-être plus de fibres, plus de micronutriments, minéraux, vitamines, etc. D'accord ? Donc ça, ça peut aussi... puis en termes de calories, je veux dire, ça va être kiff-kiff, hein. Le riz noir ou le riz blanc, on ne va pas avoir grande différence. Après, quoi d'autre? Si j'avais d'autres idées en tête, faut que ça me revienne. Est-ce que toi, attends, si tu veux me rappeler, est-ce que t'as des questionnements particuliers?
Bah, déjà, tu avais, la première chose que tu as dit sur la liste des interdits, c'est hyper intéressant puisque j'ai eu, bien évidemment, cette question, de te demander, Anaïs, quels sont les aliments à bannir de son alimentation? Pour ne pas avoir trop de calories. Donc finalement, tu y réponds, il n'y a aucun aliment à bannir. Ça, on le dit tout le temps, tu vois, on n'est pas diététicienne, mais on s'avance un petit peu quand même de temps en temps en disant, bah, pourquoi bannir des aliments? Ils sont tous OK, tous. Et comme dit toujours Karine, en plus, sur la plateforme, en soi, aucune personne n'a jamais créé un aliment en se disant, c'est pour les faire grossir, c'est pour les mettre en mauvaise santé. Et même McDo, si on se rappelle de l'histoire de McDo, n'avait pas pour but de créer de l'obésité. Au tout début, quand ils ont créé McDo, c'était pour créer un service qui manquait à cette époque, c'est-à-dire de pouvoir manger plus rapidement, entre guillemets, de façon plus facile pour aller à son travail, en fait, entre une pause déj. C'était ça l'histoire de base. C'était pas on va tous manger. Et donc, ça rappelle bien le côté que tu dis de fréquence. C'est que c'est chacun après soi-même qui avons décidé d'en consommer, 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 surconsommer. Et là, c'est aussi le drame. Mais en soi, rien n'a été créé pour nous faire grossir ou pour nous donner des cancers de base.
Alors non, rien n'a été créé dans ce sens. Après, les études qu'on fait dessus des années après peuvent, en revanche, nous donner des indices sur tel type d'aliment qui peut nous faire grossir ou nous donner une mauvaise santé. Après, j'ai envie de te dire, il faut rester sur des choses très simples, comme tu le dis. Il faut arrêter d'acheter du tout prêt, du tout cuit, du tout fait. Il faut revenir aux fondamentaux. Il faut revenir à la cuisine de mamie. Il faut faire comme mamie. Voilà, c'est-à-dire que mamie, elle n'achète pas les lasagnes toutes faites. Elle va au marché, elle prend son petit caddie, elle va acheter ses fruits, ses légumes, elle va acheter sa petite farine, voilà. Et puis mamie, après, elle transforme elle-même. Donc déjà, elle sait ce qu'elle a mis dans sa recette, elle sait les proportions. Et puis on est sur quelque chose de naturel, un aliment complètement naturel que nous, on va transformer. Et là, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux que l'industriel qui fera tout le temps la même chose et qui fera mal en plus.
Mais est-ce que tu as quand même, parce que nous on l'a tellement souvent cette question, enfin cette réflexion du coup, est-ce que toi tu dois la rencontrer quand même auprès de ta patientèle? Mais j'ai pas le temps moi. J'ai pas ton temps, alors... moi, Anaïs, à aller sur le marché.
Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais alors, Marisa, t'as. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est quelque chose qui revient souvent. Alors, moi, je leur dis, moi non plus, j'ai pas le temps. Je travaille 60 heures par semaine. Et pourtant, je fais mes repas, je fais tous mes repas. Je vais quasiment jamais au restaurant ou acheter la salade, voilà, toute prête. Ou me faire livrer. Non, jamais. Ça prend pas forcément beaucoup de temps. Je dis pas que ce sera forcément quelque chose de très élaboré. Mais en tout cas, ce sera pas mauvais pour ma santé et au contraire. Je te donne un exemple tout simple. La gamelle. Voilà, moi, je me fais la gamelle quasiment tous les midis. Donc, je la prépare le soir. Il est 9h, 10h. Parfois, je vais pas passer 3h en cuisine. On est bien d'accord. Donc, un truc tout simple. Il nous faut des protéines, des matières grasses, des glucides et puis des légumes. Donc, on prend une endive, on la coupe. On met une boîte de maquereau ou une boîte de sardines à l'huile. Dedans, je rajoute une tomate, des rondelles de concombre, une betterave sous vide qui est déjà cuite. Je rajoute, éventuellement, je peux faire cuire un petit peu de riz complet, ou alors je prends même une petite boîte de conserve d'haricots rouges, mais qui est nature, voilà, qui est pas cuisinée. Mmh. J'y mets de la vinaigrette, j'y mets quelques zestes de citron, j'y mets du basilic, une huile d'olive, une huile de colza bio. Et mon assiette, elle est faite. J'ai passé 5 minutes maximum. Mmh. Mmh. Et j'aurais bien mangé. Je serais rassasiée. Je me serais même fait plaisir parce que du coup, j'ai de la couleur, j'ai du croquant, j'ai différentes textures. Et puis, j'aurais une richesse nutritionnelle. Mmh. Calorique, pas sûr du coup. Mmh. Mais en tout cas, nutritionnelle.
D'accord.
Et ça, ce sera bien mieux que peut-être la salade, alors Sodebo ou autre, que tu peux trouver et qui sera très riche en calories pour le coup par rapport à ce qu'il y a dedans.
Mmh. D'accord. Ouais, non, moi, je suis d'accord parce que d'ailleurs, Karine, dans l'épisode qu'on avait fait avec elle qui s'appelle 5 conseils pour manger sainement dès aujourd'hui, un truc dans le genre, je sais plus, elle disait justement de revenir à simplicité.
Oui. Hein? Avec un petit budget, je crois, c'était ça.
Non, 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 c'est d'abord le premier épisode, c'était c'était d'abord les 5 conseils pour manger sainement, immédiatement, quoi, avec des trucs tout simples. Elle avait juste dit, justement, revenir à la simplicité de la crudité, quoi. Enfin, je sais pas, vous prenez une carotte, vous la râpez, c'est pas, ça prend pas de temps. Et en fait, je pense qu'aussi, parce que nous, on est sur les réseaux sociaux, nous, notre métier, c'est sur les réseaux sociaux, et je pense que sur les réseaux, c'est tellement devenu le concours de qui a la plus belle assiette, la mieux, tu sais, l'avocado toast qui est tellement bien. Tu te dis mais attendez, moi j'ai pas envie de passer 48 heures à apprendre à faire une jolie rosace avec ma rondelle de, tu vois, parce que moi j'ai 4 enfants derrière qui m'attendent, quoi. Je pense que c'est ça aussi, ça, se détacher de tout ça pour revenir à soi et à la simplicité de qu'est-ce que je peux faire. Parce que moi, par exemple, je me fais une omelette avec des pommes de terre, je sais pas quoi, ça m'a pris quelques instants, des œufs sur le plat, des œufs à la coque le soir et une soupe, quoi. Enfin, moi c'est rapide, c'est pas de la cuisine qui m'a pris 20 ans. Mais vu qu'on a tout le temps, c'était intéressant et j'aime bien ta réponse. Merci beaucoup.
Ouais, ouais. Après, faut s'aider en fait aussi de tout ce que le supermarché entre autres peut nous mettre à disposition pour nous faciliter la vie. Tout n'est pas à jeter. Après, il faut je veux dire, voilà, on peut pas être mère de famille, travailler, faire du sport, et s'occuper de sa famille, et puis, enfin, je veux dire,
un boulot,
et passer 5 heures en cuisine tous les jours, non, c'est pas possible. Je suis bien d'accord. Donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses, mais donc, une petite conserve de temps en temps, c'est pas problématique. Après, on l'a choisi, voilà, sans trop de sel, on l'a choisi très simple. Des surgelés, des légumes surgelés qui sont déjà épluchés, lavés, qui sont pré-cuits. Si c'est nature et qu'après, c'est vous qui les cuisinez, ça pose aucun souci. Et après, c'est pareil, les crudités, je veux dire, t'as pas le temps, t'achètes des tomates cerises, ton repas, il est presque fait. Tu mets une salade, 3 concombres, enfin, il n'y a pas besoin de chercher des trucs extraordinaires. Et après, comme tu dis, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça aide pas pour ça parce que c'est toujours, c'est très très élaboré, voilà. Donc moi, j'aime pas. D'ailleurs, sur mes photos, je mets pas des trucs forcément, voilà. Je fais plutôt, ben, regardez, en fait, mon gâteau, je l'ai retourné, mais il s'est peut-être un peu décollé, il est peut-être un peu, mais en fait, mon gâteau, ben, ça va peut-être être celui que vous allez faire, il aura la même tronche. Donc, ça reste la cuisine que tout le monde fait tous les jours. Et pas le truc extraordinaire que monsieur tel chef ou tel chef va pouvoir faire avec le photographe culinaire à côté et tout le truc, non, il faut rester, voilà, c'est le quotidien, quoi, il y a des défauts.
Exactement, l'imperfection, la perfection dans l'imperfection, toujours.
Donc, est-ce que tu as pu te souvenir des autres conseils que tu donnes pour s'éloigner ou des calories et également de la peser? Comme je dis, ça va, je pense, ensemble, mais beaucoup de personnes, surtout quand au tout début, Marisa se souvient bien de la plateforme. Donc, Karine, elle est comme toi. De toute façon, depuis tout à l'heure, je t'écoute, Anaïs. Pour moi, j'entends Karine. Toutes ces années où Karine nous parle d'alimentation, j'ai envie d'entendre Karine aussi. C'est fou. Vous avez la même façon de voir les choses. Et au tout début, si on se souvient bien de la plateforme, on a eu énormément de reproches, entre guillemets, on ne leur apprend pas, si tu veux, donc à compter ses calories. Ça, il y en a beaucoup qui sont désabonnés au début en pensant qu'on allait leur parler calories. Et également, Karine ne parle jamais de peser. Elle ne parle jamais de, dans votre assiette, vous devez avoir 100 grammes de viande, puisque ça équivaudrait de toute façon à mettre tout le monde dans un même panier. On a quand même plus de 1000 membres sur la plateforme. Je vois pas comment c'est possible de dire à 1000 membres, mangez tous 100 grammes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi il serait intéressant aussi de se détacher de cette pesée, de cette balance qu'on a limite tout le temps sous le coude, quoi.
Oui, je suis d'accord avec Karine, effectivement. Non, la pesée, moi, c'est quelque chose que je fais peu ou, enfin, chez certaines pathologies, etc. Mais on va dire que pour les personnes lambda, pas du tout. Par contre, on peut mettre une proportion, une répartition sur l'assiette en visuel. Et ça, c'est beaucoup plus simple à faire. Déjà, ça demande pas d'effort. Et puis, en plus, voilà, comme c'est visuel, c'est beaucoup plus parlant. Donc, en fait, on va se dire qu'on découpe l'assiette en trois. On va avoir à peu près un quart de son assiette consacrée aux protéines. Donc, je rappelle, c'est de la viande, poisson, œufs ou tofu. Un quart qui va être plutôt consacré à peu près aux féculents. Alors, un quart à un tiers, après, ça dépend de l'activité physique de chacun. Et puis, à peu près un tiers ou la moitié qui est consacré au végétal, aux légumes, légumes crus ou cuits. C'est important d'avoir un peu les deux à chacun de repas. C'est du détail, mais ça reste quand même important. Voilà. Et là, déjà, sur une assiette, un quart, la moitié de légumes, c'est facile à faire. Et là, je sais que j'ai une assiette équilibrée. Voilà. Et j'ai pas eu besoin de peser. Mes calories, bah, je m'en fiche. Et par contre, je serai rassasiée. J'aurais bien mangé, c'est joli et c'est équilibré, c'est bon pour ma santé. Voilà.
Non, c'est hyper. Et en plus, ça veut dire que les légumes doivent avoir autant de place dans mon assiette, alors c'est fou.
Ouais.
C'est incroyable.
Ouais, ouais. Ouais. L'alimentation qu'on préconise et qui est préconisée, je pense, par le plus de médecins, diététiciennes ou naturopathes, etc., alors qu'ils s'y connaissent bien, je dis, c'est, on va dire, le régime crétois. C'est celui qui a, voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études dessus et c'est vraiment ce qu'on préconise. Alors, on va dire qu'on va pas le faire très strict, on le fait pas à la version crétoise parce qu'on n'a pas forcément les mêmes choses, nous, en France, mais on va dire que c'est la base et nous, on l'adapte un petit peu à l'occidental. Mais quand tu regardes, en fait, leur alimentation, ben, la moitié de ce qu'ils mangent, c'est des légumes. Mmh, voilà. Et ça devrait être le cas pour tout le monde.
Et pourtant, c'est aujourd'hui les légumes qui sont très souvent décriés. Les gens n'aiment plus les légumes parce que je pense aussi que les légumes, c'est le souvenir de la cantine, tout ça. Donc ça, pour le coup, on a plein d'informations à ce sujet hein, sur les légumes, les cuisiner, etc., pour que ça ressemble à quelque chose. Et en plus, tu avais dit dans la masterclass sur le microbiote que j'ai écouté hier moi en voiture, que j'ai adoré. Avec Karine, c'était le fait de je vous donne des brocolis vapeur tels quels dans votre assiette versus je vous mets un petit peu d'abricot sec, je vous mets un petit peu une huile de noisette, etc. Et j'ai plus la même voilà manger il y a manger des légumes et manger des légumes quoi.
On est bien d'accord. Après moi je ce que je pense aussi à l'heure actuelle sur les légumes. C'est la. Alors bon je veux pas culpabiliser hein, mais il y a une histoire d'éducation. Je vois beaucoup d'enfants, de plus en plus d'enfants qui sont en surpoids très jeunes. Et ben en fait, ah oui, mais mon fils, il aime rien. Il est très difficile. Oui, mais bon, il est très difficile. Qu'est-ce que tu lui as donné à manger ? À un moment donné, si tu lui donnes pas des légumes et si tu dis, eh ben si tu en veux pas, eh ben il y a rien d'autre. C'est une histoire d'éducation. C'est pas l'enfant qui fait le repas. C'est quand même le parent qui a normalement, en plus, qui est guidé par les pédiatres maintenant, même dans le carnet de santé. Enfin, on en parle. Je veux dire, c'est l'alimentation. On sait très bien que les légumes, il en faut. Donc, si on donne pas l'habitude à l'enfant de goûter, en fait, des aliments qui ont du goût, parce que les légumes, ça a du goût. Les pâtes, le riz, c'est pas ce qu'il y a de plus goûteux. Et ben, on va déshabituer voilà nos papilles, notre cerveau à avoir ces différentes saveurs, et l'enfant va plus les accepter au fur et à mesure voilà de sa croissance. Et moi, j'en suis, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de refaire en fait comme une diversification alimentaire à un enfant de 10 ans. parce qu'il a complètement banni les légumes et qu'on essaie, voilà, petit à petit, sous différentes formes, etc., de réintégrer. Donc ça, c'est hyper important. Et encore une fois, il y a aussi manger des légumes et manger des légumes. Donc les accompagner, les mélanger, leur donner du goût, de la saveur, mettre de la couleur, mélanger les légumes entre eux, puis l'assaisonnement, les épices, etc. Et puis après, il y a aussi essayer de manger différents légumes et pas tout le temps la même chose. Beaucoup de gens me disent « Ah oui, mais je mange toujours la même chose ». Non, 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 c'est pas vrai. À chacune des saisons, on va retrouver une quantité assez impressionnante de légumes. Peut-être qu'il faut aller sur des circuits de distribution différents. Dans les marchés de producteurs notamment, on va retrouver quand même beaucoup plus d'offres, de variétés aussi différentes. Et ne serait-ce, je sais pas, les choux, les courges, c'est assez impressionnant tout ce qu'on peut avoir. Et puis après, c'est aussi la préparation. Hein, si je fais une purée, si je fais une soupe, si je le fais rôti au four, en chaud, froid, ça me donne une quantité assez importante de recettes différentes et j'aurais pas l'impression de manger tous les jours la même chose.
En plus, quand on a plein de légumes comme ça, même sur le marché, enfin, on le voit, nous, en plus, on est, je pense que ça fait des années qu'on dit, allez sur le marché, allez sur le marché, allez sur le marché.
Mais est-ce que c'était pas moderne? Nous, quand on arrive sur YouTube en disant aux gens, allez sur le marché, les gens, ils nous regardent en mode, c'est bien parce que vous êtes bien mignonnes toutes les deux qu'on accepte ce genre de discours. Mais c'est mamie qui va sur le marché avec son caddie, c'est pas moi qui ai 20 ans, c'est pas fun, c'est pas fashion d'être sur le marché. Aujourd'hui, un peu plus. Aujourd'hui, je trouve que maintenant, on voit plus de jeunesse, hein. Moi, je trouve que sur le marché, j'en vois de plus en plus. Peut-être grâce à nous. Ils adorent qu'ils sont plus jeunes, qu'en penses-tu? Mais c'est vrai que quand on est arrivé il y a 5 ans, 6 ans sur les réseaux, tu dis à des jeunes, allez sur le marché, non, c'est pas fashion, c'est pas fun, c'est pas moderne. Et pour autant, c'est ce qu'il faut, pour moi, c'est il faut revenir à ça, ça c'est clair et net. C'est que comme ça qu'on va réussir à avoir une bonne santé.
Oui, c'est ce qu'il faut. Et en plus, Marisa, si on revient justement à tout ce qui est densité nutritionnelle, tes aliments, tes légumes ou tes fruits sur ton marché, ils auront une densité nutritionnelle bien plus importante. Alors, ce sera, voilà, on va pas comparer à nos légumes d'il y a 100 ans parce que ça n'a rien à voir. Mais déjà, comparé à une tomate, voilà, qui a parcouru, je sais pas, des milliers de kilomètres, qui a été cueillie à moitié verte, qui en fait n'a pas eu le temps de se développer, donc n'a pas eu le temps, et puis qui a pas été stressée en fait. Parce qu'on lui a apporté tous les nutriments, on lui a apporté toute son eau quand il fallait, etc. Et ben ça c'est bien dommage qu'on cultive comme ça maintenant, parce que du coup la plante ne va pas avoir de stress, et c'est grâce à un petit stress qu'elle va pouvoir fabriquer plus de vitamines, qu'elle va pouvoir fabriquer plus d'antioxydants, parce qu'en fait ça va être ses armes contre les agressions, et c'est ce dont on a besoin. Donc il vaut mieux acheter proche de chez soi, déjà pour avoir moins de pertes, cueillir à maturité et puis cultiver dans le bon sens, hein, c'est-à-dire sans tout, si possible, moins de pesticides ou d'engrais chimiques, etc. Et plus un peu à l'ancienne, hein, potager de mamie, papy, voilà. Et déjà, ça a plus de saveur aussi.
Complètement.
Ça a plus de saveur, on aura plus de minéraux, plus de vitamines, voilà, encore une fois, rien à voir. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus.
Mais j'aime bien, moi, l'idée, enfin, ça aussi, si on se souvient, Marisa, dans une vidéo YouTube, ça date, c'était il y a au moins 4 ans, 3 ans, où je disais, je sais plus, hein, peu importe, on est pareil, on disait, il faut revenir à l'alimentation de nos grands-mères. C'est un truc qu'on disait déjà il y a au moins 3-4 ans. Revenait à l'alimentation de nos grands-mères. Et je trouve que ça permet de rebondir aussi sur les calories et sur la pèse, etc. Parce que, bon, on pèse, moi je pèse, bien sûr, hein, pour faire un gâteau, je sais pas trop froid, sinon je vais faire n'importe quoi. Mais dans mon assiette, en règle générale, je ne pèse rien. Et quand on revient un peu en arrière, quand on regarde nos grands-mères, si vous avez encore des grands-mères, vous les voyez, je pense pas qu'une grand-mère se dise « Tiens, je vais compter tant de calories ». Combien de calories fait mon assiette? Elle ne pèse pas. Nous, par exemple, c'est notre mère, pourtant c'est pas une grand-mère, c'est notre mère. Je pense qu'elle fait tout à l'instinct. C'est-à-dire que quand je lui demandais une recette, à chaque fois je lui demande, maman, tu peux m'envoyer la recette de tel truc? Moi, j'ai un vulgaire SMS avec écrit épinards, riz, poulet, huile d'olive. les quantités, le truc. Mais non, tu sais, c'est comme ça. Tu mets un peu comme ça dans ton, dans la marmite et ça va te faire le truc. Et moi, je trouve que c'était comme ça que tout le monde cuisinait à l'époque. Et je pense avec le marketing, l'industriel,
bien sûr,
les réseaux sociaux, les applis, on va y venir après, les applis, bah, du coup, on intellectualise, tout ce qu'on mange et on oublie nos grands-mères. Donc moi, s'il y avait un conseil, ce serait pensez à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents. Personne n'avait une balance avec soi.
Oui, mais ça revient aussi à la notion de plaisir, en fait, parce que quand tu es dans, voilà, t'intellectualises ton alimentation, donc t'es en train de compter, machin, etc. Bref, c'est comme si tu faisais un boulot ou des devoirs, pas très réjouissant. Alors que si tu cuisines un peu comme mamie, ben voilà, tu vas plutôt regarder l'odeur, le bruit aussi, la texture, est-ce que ça accroche, voilà, t'es dans la sensation. T'es dans tout ce qui fait sens, et quand tu es dans tout ce qui fait sens, dans ta sensorialité, tu n'es plus dans l'intellect. Et ça, c'est important aussi parce que ça permet de se déstresser, entre autres. Et après, je reviens aussi à la cuisine de mamie et tout ce qui est pesé, comme tu le disais. Il y a un proverbe arabe, alors je ne vais pas me tromper, je vais le dire en arabe, c'est « Aynek miznek », ça veut dire « ton œil, c'est ta balance ». Voilà, donc c'est à l'instinct, c'est au visuel, c'est un peu ci, un peu ça, comme tu dis, voilà, mais la quantité, à la limite, on s'en fiche.
Et je vois une question qui est, sinon ça rejoint tout ce qu'on vient de dire, mais je trouve qu'elle est quand même beaucoup revenue. Peut-on maigrir sans compter les calories ?
Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que je fais au quotidien en consultation. Alors moi, je fais pas de régime. Un régime, c'est une alimentation qui est restrictive sur un certain laps de temps. D'accord ? Un rééquilibrage alimentaire, c'est je réapprends à manger ce qu'il faut, quand il faut, dans les proportions, les fréquences que j'indique. Et du coup, c'est sur du long terme et c'est sur toute la vie, j'ai envie de dire, puisque en fait, on revient à une alimentation santé. Et en faisant ça, eh ben, on perd du poids et c'est surtout qu'on va pas le reprendre. Parce que quand on fait des régimes, on arrête et après, on reprend tout, voire plus, souvent beaucoup plus.
L'effet yo-yo.
Tout à fait.
Le fameux. Donc oui, non, c'est parce qu'en fait, là, moi, ce que je comprends dans cet épisode, c'est vraiment, oui, on peut maigrir en ne comptant pas ses calories. D'ailleurs, c'est pas en comptant ses calories, comme tu disais, vu qu'on rentre dans l'intellect, on rentre forcément dans la culpabilité, etc. Donc, l'autoflagellation permanente de j'ai mangé alors que mon diététicien m'avait dit de pas manger ça, mais bon, du coup, maintenant, je vais m'autoflageller, voilà. Alors que quand on revient juste à la qualité, voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire en quelques mots, c'est quoi la qualité d'un aliment ? Qu'est-ce qu'un aliment qualitatif finalement ?
Alors, un aliment qualitatif, généralement déjà, c'est pas un aliment industriel. Un aliment qualitatif, dedans, on va retrouver, souvent des macronutriments, hein, donc ça dépend quel type d'aliment, mais on va avoir une richesse en protéines ou en glucides ou en lipides, mais la richesse qualitative, c'est surtout les micronutriments, c'est-à-dire les fibres, les minéraux, donc le fer, le zinc, le calcium, le magnésium, le molybdène, etc. Les vitamines du groupe B, vitamine D, vitamine A, vitamine K, vitamine E, les acides gras essentiels, c'est-à-dire des graisses que notre corps n'est pas capable de synthétiser. C'est-à-dire que si je ne les apporte pas par mon alimentation au quotidien, je serai en carence. Donc les acides gras, on a les acides gras essentiels, les oméga 3 notamment. On a aussi, donc après, il faut retrouver des oméga 9, des oméga 6 dans notre alimentation, certains acides gras saturés. On a encore les acides aminés essentiels qui vont composer nos protéines. Et là, c'est pareil. Il y en a certains qu'on n'est pas capable de synthétiser. Donc, si je n'ai pas un apport suffisant en protéines, j'aurai des carences. On a aussi tout ce qui est antioxydant. Donc, ça va être tout ce qui est lycopène, lutéine, zéaxanthine, caroténoïdes. Enfin, il y en a des milliers. Et c'est des toutes petites substances qu'on va retrouver dans tel ou tel aliment. Il y en a d'ailleurs qui, par exemple, le lycopène, ben on va le retrouver que dans la tomate. Voilà, c'est vraiment très particulier. Et en fin de compte, tous ces tout petits là, dans notre corps, c'est une richesse. Et c'est ce dont on manque, et c'est ce dont il faut qu'on apporte, qu'on fasse l'effort de retrouver dans tous nos repas. Donc, voilà, en variant aussi, parce que manger toujours la même chose, on va être confronté tout le temps aux mêmes minéraux, aux mêmes vitamines, aux mêmes macros dans les aliments, alors qu'en variant, on va pouvoir diversifier les vitamines, les minéraux, les antioxydants, etc. Voilà, donc la richesse, c'est tous ces petits qu'on retrouve en petite quantité, mais ô combien précieux.
En fait, j'ai limite l'impression, est-ce que Karine t'avait montré l'intérieur de notre plateforme ou jamais? T'as jamais vu l'intérieur de notre plateforme?
Oui, si, si.
Parce que j'ai vraiment l'impression que t'as écouté tout ce qu'on a dit et que, parce que c'est ouf, j'ai l'impression que vous êtes hyper connectés, quoi, avec Karine.
Pas du tout. J'ai regardé un peu les recettes, mais j'ai pas regardé encore le reste.
Bah, c'est incroyable parce que vraiment, ce que tu dis, c'est, je pense, tout ce qu'on dit en cycle, bien évidemment. Oui. Différent,
détaillé, oui, bien sûr.
La norme est détaillée, bien sûr. Et bien évidemment, là, t'as donné une liste. Lico, je sais pas quoi, par exemple. Là, je me dis, les gens, ils vont se dire, mon Dieu, je vais chercher la liste de tous les micronutriments.
Ah oui, bon courage.
Comme dirait Karine, et toi, je pense que tu serais complètement d'accord. Pas besoin d'aller courir chercher la liste des micronutriments, puisque logiquement, quand on a une alimentation déjà saine avec des produits bruts et des vrais bons produits, et qu'on varie en plus au quotidien ses repas. Bah finalement, on n'a même pas besoin de savoir. Moi, j'en ai rien à faire de savoir le mot lico, je sais pas quoi, puisque finalement, je vais avoir tout ça au fur et à mesure de mon alimentation, si je me trompe pas.
Oui, ouais. Après, ça dépend aussi, je pense, les gens, il faut qu'ils aient quand même l'information de savoir, par exemple, tu vois, typiquement, les gens aujourd'hui, qui sait qu'on est censé manger des oméga 3, par exemple? Où c'est dit ça? Tu vois ce que je veux dire? On va nous dire manger les fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour. Ça, on l'a entendu, tout le monde le sait, tout le monde. Mais est-ce que les gens, ils savent que, tu sais, les oméga 3, c'est quand même très bon pour notre système nerveux, etc., etc. Ça, tu vois, la vitamine D, est-ce que les gens savent qu'il faut en... Non, ça, on n'entend pas ce genre de discours, tu vois. Enfin, non, on entend, si, on commence à en entendre, mais pas au...
Ouais, non, ce genre de discours, alors, il est un petit peu dans le dernier PNNS, là, hein, où on dit quand même qu'il faut manger les petits poissons gras, certaines huiles, etc. Mais c'est un petit peu mis entre parenthèses, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est pas ce dont qu'on voit à la télé, là, ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Bref, d'ailleurs, c'est des bêtises. Enfin, c'est pas très clair. C'est comme le manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, 5 fruits, vous mangez 5 fruits, c'est OK. Pas du tout, c'est la catastrophe.
Donc,
les messages de santé sont pas forcément bien élaborés, pas super bien construits. Non. Et puis après, je pense qu'ils sont même en termes de visibilité, c'est pas suffisant. Tu vas chez le médecin, il te parle pas d'alimentation, il y a rien dans la salle d'attente qui pourrait, ne serait-ce qu'un poster, quelque chose, avec une fréquence, avec quel type d'aliment manger. Et puis, les oméga 3, moi, j'ai envie de te dire, les médecins, la plupart du temps, ils savent même pas ce que c'est.
Non, c'est vrai.
Et en plus, c'est l'industrie agroalimentaire souvent qui s'empare du problème et qui invente une merdouille. Je prends l'exemple des margarines. Les margarines, voilà, riches en oméga 3, blablabla, avec un cœur et tout. C'est juste une catastrophe. Alors, autant... en fait, il y a quand même des aliments à éviter, hein, à mettre à la poubelle. La margarine... à mettre à la poubelle, surtout si elle est riche en ce qu'on appelle en oméga 3 là, mais c'est des oméga 3 qui ont été transformés, qui ont été fabriqués par l'alimentaire, qui a été complètement modifié, et en fait c'est pire de manger ça que de manger du beurre ou une margarine classique.
Oui, c'est
vrai. Surtout pas. Voilà. Et après, non, après, c'est notre combat tous les jours. Mais effectivement, comme on n'a pas à l'école, j'ai envie de dire, hein, parce qu'apprendre à manger, c'est l'héritage familial. Sauf que tes parents, tes grands-parents n'ont pas forcément une bonne éducation alimentaire. Donc après, c'est des erreurs qui se répercutent de génération en génération. Et quand souvent je l'entends, hein, en consultation, oui, mais moi, chez moi, tout le monde est gros. Donc du coup, en gros, c'est génétique. Pas du tout, mais comme tu as la même éducation alimentaire que tes parents, que ton frère, que tes grands-parents, bah forcément, tu vas retrouver la même physionomie parce que tu manges aussi mal qu'eux.
Donc, je pense que c'est pour ça qu'après, si tu n'as pas eu l'éducation alimentaire, faut aussi, ça existe aujourd'hui, se faire aider. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas une honte de se faire aider, d'aller consulter une diététicienne, un micronutritionniste, peu importe ce qui vous parle en fait au moment où... Et si vous sentez que vous êtes perdu dans cette alimentation, il y a tout, il y a plein de potentiel. Nous, on parle de la plateforme parce que c'est notre métier, mais il y a tellement aujourd'hui de professionnels de santé qui sont compétents que dans ce cas, il faut aller se faire aider, il ne faut pas hésiter. Hein, parce que là, nous, c'est pas sur un podcast de une heure et quelques qu'on va pouvoir faire une liste de voici ce qui est bon pour toi par rapport à toi, qui tu es aussi. Donc oui, se faire aider, c'est quand même important pour justement si en plus ensuite on est parents, etc. Et si on ne fait que à chaque fois, offrir en héritage à ses enfants tout ce qu'on ne sait pas en fait, tout ce qu'on n'a pas eu nous. Et que du coup, ton enfant, quand il a 5 ans et qu'il commence à avoir des problèmes de poids, tu sais que toute sa vie, c'est un enfant qui va se battre contre son poids. C'est quand même un cadeau qu'on lui offre qui est un peu empoisonné, quoi. Donc, se faire aider, c'est quand même...
La santé, parce qu'il y en a qui ça va être répercuté sur le poids, il y en a qui ont des maladies chroniques, il y en a qui...
Oui.
Toutes les maladies actuelles dont on entend tout le temps parler, c'est assez catastrophique. Nous, sur la plateforme, il y a autant de personnes qui viennent pour perdre du poids que des personnes qui ont des soucis, par exemple, tu vois, il y en avait qui disaient plein de mycoses, j'ai plein de mycoses tout le temps. Quelque part, tout est relié aussi
toujours
à l'hygiène de vie et son alimentation. Les personnes qui viennent pour des mycoses, il y en a qui disent qu'ils viennent parce qu'ils ont tout le temps des maux de tête. Enfin, il y a quand même...
Des ballonnements tout le temps, des gaz tout le temps.
Oui, tout à fait. Ça, c'est le genre de petits troubles, en fait, qui vous gâchent la vie et qui peut être... résolu, j'ai envie de dire, alors pour certains, très très rapidement en changeant juste son alimentation. Et après, alors on peut venir pour une pathologie ou un petit trouble, voilà. On peut aussi venir, comme tu l'as dit, pour moi ça m'arrive assez régulièrement. En fait, je suis perdue et je viens parce que je sais plus quoi manger. Je voudrais, je voudrais mieux m'alimenter. Voilà, ça m'arrive assez régulièrement de personnes qui viennent pas forcément dans une optique de perte de poids ou de troubles intestinaux ou rien du tout. Et on n'est pas obligé de les revoir, hein. Ça peut être juste une seule consultation. Donc, faut compter, alors selon les régions, hein, je dirais entre 50 à 70 euros peut-être. Voilà, mais c'est une fois et peut-être que cette fois-là, ça va peut-être faire beaucoup de miracles après sur votre santé, sur votre famille, hein, parce que moi souvent je vois une personne dans la famille, mais en fait tout le monde s'y met.
Oui.
Et du coup, il y a le mari, les enfants qui perdent un peu de poids ou qui se sentent mieux ou qui ont plus mal au ventre. Donc voilà. Et puis après, ça fait aussi l'effet boule de neige où il y a la mamie, il y a les petits enfants, ils se posent des questions aussi et ils se mettent à manger un petit peu mieux. Alors même si c'est pas tout, mais le petit peu sera toujours mieux que le rien du tout.
Clairement, c'est sûr. Et toi, avant de conclure, quand tu vois des personnes qui sont très attachées comme ça à leurs calories, est-ce que tu vois après plusieurs consultations, est-ce que tu sens vraiment un changement en eux au fur et à mesure où ils se détachent de ça et ils comprennent vraiment l'importance en fait de l'aliment en lui-même et la qualité de ce qu'il va m'apporter plutôt que en termes de calories quoi. Tu le sens vraiment toi une différence au fur et à mesure?
Oui. Parce que moi je pense que les gens en fait se sentent rassurés quand ils sortent. Des fois ils sont un peu inquiets, je pense, en rentrant, les enfants notamment. Et quand ils sortent, finalement, ils se sentent rassurés parce qu'en fait c'est facile, parce que j'ai pas besoin de compter, parce que j'ai pas besoin de peser, parce que j'ai pas besoin d'acheter ci ou ça, parce que finalement ça ressemble quand même. Dans la plupart du temps, à leur alimentation de base. Il y a quelques... souvent, le petit déjeuner, on va le changer, Mais je veux dire, le midi, ça reste pareil. Et puis, ils connaissent déjà les aliments. Tout le monde mange du riz, tout le monde mange des pommes de terre. Donc, ça les rassure dans le sens où c'est pas une contrainte. Et j'ai envie de dire, qu'au bout d'un certain temps, j'ai beaucoup de patientes qui me disent que ça leur coûte pas. Pour eux, c'est facile, il n'y a pas de frustration. Ça, c'est important aussi. Par contre, il y a du plaisir. Mmh. Et c'est ce qu'on recherche.
Mmh, mmh. Moi, je pense que ne plus compter les calories, ça libère plus que ça ne... C'est sûr que c'est déstabilisant si t'as eu... Toi, on t'a expliqué que c'était comme ça ou que tu t'es dit dans ta tête, finalement, que c'était comme ça. Mais je pense que ça libère et ça libère une charge mentale déjà énorme. On a déjà assez de stress et de choses dans notre tête au quotidien. De en plus, s'imposer ce rythme-là, moi, je trouve que c'est
mais tout c'est à fou, fait. Mais, ouais. Je pense que moi, ces personnes-là, elles mangent pas avec plaisir, hein. Tout le temps dans un hyper contrôle. On peut même peut-être on parle d'orthorexie, hein, quand on est dans l'hyper contrôle alimentaire. Alors ça arrive sans compter les calories, ça aussi. C'est se gâcher la vie, hein, franchement, compter les calories. Faut vraiment avoir que ça à faire. Oui, c'est très contraignant, c'est très long.
C'est très long. On compte les calories et on ne télécharge pas donc les applis de comptage de calories, parce qu'on m'a demandé quand même si tu pouvais nous citer des applis sympas pour compter des calories.
Faux. Quelle horreur.
Mal compris ce dont on allait parler. Hein. Est-ce que tu nous en conseillerais, toi?
Ben non. Et puis je vais te dire, je les connais même pas.
Ouais, moi non plus, j'aime même pas ça exister vraiment. Ouais.
Je suis sûre qu'il y en a plein, hein, mais aucun intérêt.
Bah, t'en as, oui. Ouais. C'est carrément, tu mets ton assiette, tu prends la photo de ton assiette.
Ah oui, mais bien sûr.
Exactement, ça te calcule, ça te dit si t'as trop mis dans ton assiette, pas assez. Bien évidemment, cette application ne sait pas qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai couru 4 heures partout parce que j'ai fait, je sais pas, je suis infirmière, j'ai couru toute la journée et que, bah, j'ai mangé trop si j'ai mangé mon poulet, mon riz, mes pâtes et mes haricots verts, bah, c'est trop. Mais c'est pas.
Ouais. Oui, alors c'est vrai que les gens vont se demander combien de calories il leur faut par jour. C'est souvent ça. Hein. C'est pour ça qu'ils comptent, pour savoir, voilà. À la limite, c'est extrêmement compliqué. Même nous, en tant que professionnels, on a du mal. C'est sous-évalué, surévalué, c'est très compliqué. C'est en fonction de l'âge, du sexe, du poids, de la taille, de l'activité physique. Et après, il y a toute la composante dont on ne connaît pas, c'est notre métabolisme. Et notre constitution, notre génétique aussi va faire que, bah, il y en a, ils vont métaboliser plus, d'autres pas pareil, voilà. Il y a des gens, ils vont métaboliser mieux les glucides que les lipides, bref. Donc c'est extrêmement compliqué, même à l'état de recherche, je crois que c'est encore très compliqué, hein, ça sert à rien. Après, nous, en tant que professionnels, on connaît un petit peu les fourchettes, mais ça n'a aucun intérêt de savoir telle ou telle personne. Moi, je vous dis, j'en sais rien. Je ne sais même pas combien... j'ai une vague idée, mais je ne sais même pas combien je donne de calories à telle ou telle personne. Franchement, je m'en fiche. Moi, je trouve qu'il faudrait peut-être... Bah tiens, vous pouvez inventer ça. une appli qui te dit, un peu comme une checklist. Voyons, petit-déj, t'as mis ça, tu check, ok. Le midi, t'as mis ça, ok, non, il manque ça, qu'est-ce que j'aurais pu mettre, etc. Ça, c'est vachement plus intéressant.
Ouais, j'y pensais en même temps qu'il devra parler, mais non, mais attends, c'est pas ça, c'est le truc inverse qu'il faut faire, c'est pas, voici ce que j'ai mangé, ce que tu valides, en fait, c'est ça, c'est attendre de la validation, et ce côté bon élève, ce côté, en fait, là encore une fois, on perd ce côté responsabilisation, et je suis acteur de ma vie, de ma santé, c'est vraiment genre, je laisse à une application valider si oui ou non, j'ai été bon élève. Non, c'est moi, j'ai décidé, moi, de mettre ça dans mon assiette. C'est je le fais ou je l'assume pas. Si je me rends compte moi-même, je me pose des questions, en effet, est-ce que mon assiette, elle est équilibrée? Est-ce que ça va me faire du bien sur ma santé? Bah, je ne sais pas, parce que je suis perdue, j'en ai aucune idée. Du coup, soit je vais regarder des gens sur Internet qui disent des vrais messages intéressants comme nous, par exemple. Ou sinon, je vais tout simplement regarder, tiens, micronutritionniste dans ma ville, je sais pas quoi. Tiens, quoi qu'est-ce? Et dans ce cas, ça nous aide, mais revenir à sa propre responsabilité et pas attendre d'une application qu'elle valide mon assiette, quoi. Ça, moi, je trouve ça incroyable.
Mais t'as complètement raison. En fait, moi, quand je fais du rééquilibrage alimentaire, ce que je veux, c'est que mon patient patient il devienne autonome vis-à-vis de son alimentation et surtout qu'il comprenne. Il y a beaucoup de personnes qui attendent des menus tout faits. J'aime pas. Moi, je donne des menus dans le sens où je dis, je vous donne des idées. Je vous donne des idées. Mais si j'ai mis courgettes, vous pouvez changer, vous mettez haricots verts, c'est pareil. Voilà, c'est juste une histoire de menu, d'une histoire d'idée, de qu'est-ce que je fais, avec quoi je peux l'associer, voilà, parce que quand on change d'alimentation, des fois on bloque. C'est juste pour ça. Mais avoir un truc tout fait, tout cuit, c'est débile, parce que une fois que vous êtes plus suivi, et on va pas se voir pendant 40 ans, je suis pas derrière vous dans la cuisine, et ben vous êtes paumé et ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est effectivement qu'il y ait une intelligence, une alimentation qui soit pas intellectuelle, mais qui soit intelligible. Donc, que vous compreniez pourquoi je mange ça, pourquoi je mange pas ça, en quelle quantité, par quoi je peux le remplacer. Voilà, donc c'est aussi les groupes alimentaires, connaître un petit peu quel type d'huile et pas une autre. Et c'est tout ce dont on peut décrypter en consultation. Qui est pas forcément de pathologie, mais en fait apprendre à bien manger et l'intérêt de tel ou tel aliment pour ma santé et pour ma satiété, pour mon assiette, voilà.
Non, c'est vrai. Et tu vois, c'est parce que là, c'est vraiment, moi, je pense vraiment, l'industrie nous a, agroalimentaire nous a vraiment tué et c'est incroyable. Parce que quand on se rappelle, on en parlait hier avec ma mère, elle dit, mais moi, quand j'étais petite, moi, ma grand-mère, c'était huile de foie de morue qu'on bouffait comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils savaient déjà, tu vois, qu'il fallait tel apport, mais c'était pas quelque chose qui était dans, intellectualisé, tu vois, c'était le matin, tu prends ta petite huile, et ensuite tout ça, on a totalement laissé de côté, etc., pour ce côté très rapide de la vie d'aujourd'hui qui est extrêmement rapide, où il fallait, bah, du coup, l'industrie agroalimentaire, pardon, c'est engouffré dedans et s'est dit bah voilà, là on va leur proposer plein de trucs déjà tout fait, et du coup aujourd'hui on a totalement délaissé notre libre arbitre et délaissé juste notre mais qu'est-ce qui est bon pour moi en fait. C'est marqué sur la tête de gondole, voici mon beurre oméga 3 en énorme, etc., je prends, c'est marqué, je fais confiance. Non, toi, est-ce que toi tu penses vraiment que c'est pas derrière la thune qui vont gagner, qui font qu'ils ont marqué, ils ont placardé oméga 3 sur le truc, il doit peut-être avoir un cinquième d'oméga 3 et encore. Et ouais, puis, comme tu disais tout à l'heure, quel oméga 3, quoi.
Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, faut pas avoir confiance, hein. Quand vous allez faire vos courses, faut pas avoir confiance, parce que ce qu'ils veulent, en fait, c'est vendre et gagner du fric sur votre dos.
C'est ça.
Par contre, voilà, le petit paysan, le petit agriculteur, lui, vous pouvez lui faire entièrement confiance. Vous pouvez même lui poser des questions. Et puis c'est quand même plus sympathique que de parler à rien du tout, là, un rayon et une étiquette.
C'est clair.
Et effectivement, ouais, reprendre en fait une alimentation basique, saine, de papy mamie. Moi, je crois que les années, ouais, l'émancipation de la femme aussi a dû être une grosse.
Totalement.
Voilà, le tout prêt, l'aliment, voilà, des plats préparés, etc., pour gagner du temps. Oui, mais alors oui, on gagne du temps, mais il y a tout le revers de la médaille dont on vous parle pas.
C'est
clair. Juste la cata.
Mais je pense qu'on tient un truc, Isadora, avec la cuisine de mamie. Je pense qu'on va créer un gif à cette. Tu sais ce que c'est un gif, Anaïs,
ouais,
ou pas?
Ouais.
Ouais. Je pense qu'on va créer un gif sur Instagram, la cuisine de mamie. Cuisine de mamie. Non, c'est très intéressant, c'est très important. Faut revenir à ça. Donc moi, je suis totalement d'accord. Donc pourquoi compter les calories ne sert à rien? Parce qu'il faut revenir à la cuisine de mamie.
Oh. Voilà.
Mamie avait pas son petit cahier et n'avait pas de portable peu cher. Pour pouvoir et prendre une application et savoir si sa bouillabaisse était calorique ou pas. Elle en avait besoin là maintenant, elle l'a faite, elle l'a mangée. Elle s'est régalée même en plus.
C'est clair. Ouais.
Mais en tout cas, merci beaucoup Alice, parce que franchement, j'ai adoré cet épisode. En
temps, oui, un échange très intéressant.
Très intéressant. Ouais. Ça rejoint tellement, mais moi je trouve que c'est fou, hein, t'es la sœur jumelle de Karine. Vous dites beaucoup de choses. En même temps, je comprends pourquoi elle a voulu que ce soit toi qui fasse cette masterclass sur le microbiote. En tout cas, voilà, vous avez un petit aperçu, même avec Anaïs, qui n'est pas pourtant sur la plateforme au quotidien, mais pourtant, c'est tout ce qu'elle a dit, c'est vraiment ce que avec Karine on véhicule aussi sur la plateforme. Qui rouvre, on n'oublie pas, hein, le 1er octobre, mais on vous l'a déjà suffisamment dit sur tous les réseaux, pour que vous n'oubliez pas la réouverture de la plateforme le 1er octobre. Merci beaucoup Anaïs. J'espère que ça va permettre à beaucoup de personnes de juste s'apaiser aussi, de se dire mais en fait on peut y arriver. Il n'y a pas besoin de se masturber le cerveau comme je dis toujours. On peut retrouver le bon sens soi-même. Ça demande aussi quand même un petit peu de travail chacun aussi de son côté.
Et Anaïs, juste toi, on peut te retrouver où ? Est-ce que tu travailles en... Parce que nous, c'est sûr qu'on va nous le demander. Hein. J'ai adoré Anaïs, est-ce que c'est possible que tu travailles à distance ? Tu travailles que en cabinet ?
Je travaille surtout au cabinet. À distance, pour le moment, je n'ai pas développé, mais pourquoi pas.
D'accord.
Ça m'arrive de temps en temps, oui.
D'accord, ok. Ok, parce que tu es sûr... Et on peut te suivre sur Instagram ?
Sur Instagram, sur Facebook, et après j'ai un site internet.
Ok, bah on mettra tout dans la description de cet épisode de toute manière. Si ça vous intéresse, et bah n'hésitez pas à aller voir tout ça. Soyez acteurs de votre santé, les amis. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.